Bienvenue dans cet épisode de Scully et compagnie, histoire de bibliographe. Aujourd'hui, Scully va entendre parler d'une toute petite variante textuelle et d'un très gros animal marin. C'est assez d'un seul lambda. Une leçon étrange dans la catéchèse 14 de Cyril de Jérusalem. J'étais en train de travailler dans mon bureau quand quelqu'un a frappé à la porte. J'avais assez peu de doutes sur l'identité de la personne. À cette heure de la journée, avec ce rythme caractéristique, il ne pouvait s'agir que de Scully, qui venait comme à son habitude se dégourdir les jambes pendant la pause qu'elle s'accordait au milieu de sa propre séance de travail.
Tu travailles ?
Jusqu'à ce que tu m'interrompes, j'essayais, oui.
Pas merci pour l'accueil, ça fait toujours plaisir. Je parie que tu travailles encore à ton Cyril de Jérusalem. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas encore parler de ton gars, là, le bénédictin auvergnat, qu'il a édité au début du XVIIIe siècle.
Lui-même, Antoine-Augustin Toutet. On ne peut rien te cacher.
Mais tu as encore des choses à dire là-dessus ? Tu n'as pas déjà tout dit sur Toutet ?
Eh bien non, je n'ai pas tout dit sur Toutet. Là, en l'occurrence, je vais parler d'une de ses bourdes.
Oh, le grand homme va en prendre pour son grade. Ça m'intéresse.
Alors c'est parti. Mais d'abord, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut commencer par situer l'œuvre et le passage concerné. Les catéchèses prébaptismales de Cyril...
Le Cyril de Jérusalem, qui était, rappelons-le, évêque de Jérusalem dans la seconde moitié du IVe siècle.
Oui. Et puisqu'on en est au rappel, je te rappelle pour ma part que ces fameuses catéchèses prébaptismales de Cyril sont des homélies destinées à la formation dogmatique des candidats au baptême et qu'elles ont probablement été prononcées à Jérusalem au milieu du IVe siècle, pendant le carême. Les numéros 6 à 18 de la série en particulier forment un commentaire article par article du symbole de foi qui était, enfin c'est ce qu'on suppose, en vigueur à Jérusalem à l'époque. Sur ces 13 homélies, 3 forment un groupe christologique. La 12e est consacrée à l'incarnation, la 13e à la passion et la 14e à la résurrection. Donc, le passage qui va nous occuper aujourd'hui est extrait de cette catéchèse 14 sur la résurrection.
Ah oui, ça me revient. La catéchèse dogmatique sert à, fonder en raison les articles de foi.
Bravo ! C'est d'ailleurs pour cela qu'on insiste particulièrement sur l'incarnation, la passion et la résurrection, qui sont au centre de la prédication chrétienne. Mais il faut aussi ajouter que dans ce contexte, les livres prophétiques de l'Ancien Testament sont mis à contribution pour servir de témoignage, martyria en grec, au Christ, selon la méthode de l'exégèse typologique. Un fait, un épisode ou un personnage de l'Ancien Testament est présenté comme une figure, tupos en grec, d'un épisode particulier de la vie de Jésus. Donc, dans la catéchèse 14, au chapitre 17 et suivant, Cyril développe une exégèse typologique de l'épisode qui met le prophète Jonas aux prises avec un terrible monstre marin.
Mais je croyais que Jonas avait été mangé par une baleine, comme Pinocchio.
Pour Jonas, comme pour Pinocchio du reste, c'est plus compliqué que ça. Le mot grec employé par la Septante...
Ah oui, attends, laisse-moi me rappeler. Ne me dis rien. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament.
Tout à fait. Donc, comme je te le disais, le mot grec employé par la Septante est kétos. C'est un terme générique pour désigner des animaux marins de grande taille, comme par exemple de gros poissons.
Ou des cétacés ?
Oui, bien sûr, puisque le mot cétacé est issu du grec kétos, justement. Bref, je pense qu'il n'y a pas besoin de te rappeler le contenu narratif de cet épisode, ni même d'insister trop lourdement sur le fait qu'il est, dès les tout premiers moments de l'histoire littéraire chrétienne, considéré comme une figure de la résurrection du Christ. Et pour cause, puisque cette typologie est explicitée dès l'évangile de Matthieu. Donc, Cyril n'innove pas du tout dans le choix de la matière à traiter. En revanche, dans le détail, sa méthode est un peu particulière.
Particulière en quoi ?
Peu importe, disons que ce n'est pas le sujet. Revenons plutôt à ce qui nous occupe, la bizarrerie philologique. De quoi s'agit-il ? Jonas, comme tu sais, a l'idée saugrenue de fuir l'appel de Dieu en quittant Ninive pour Tarse, et celle guère plus judicieuse de gagner Tarse par la mer.
Il est comme une baleine en fait !
Si tu veux. Toujours est-il que pendant la traversée, une tempête menace de faire chavirer le bateau. Le prophète comprend que c'est lui-même qui a provoqué cette punition divine. Il consent donc à son propre sacrifice et demande à l'équipage de le jeter par-dessus bord.
Il leur dit vraiment ça ?
Oui, il leur dit vraiment ça. Pour être précis, ces propos se lisent au chapitre 1, verset 12 du livre de Jonas. Je te les lis tels qu'ils sont rapportés dans la Septante. Arateme kayembal eteme estentalasan kaiko pasei et talasa afumon. Dioti egnoka ego oti dieme rocludon omegas putos efumasestin.
Tu peux traduire s'il te plaît ?
Hissez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer cessera de s'agiter contre vous. Parce que je l'ai compris, c'est à cause de moi que cette grande tempête est sur vous. Cyril cite presque textuellement la première phrase du propos rapporté, sans la modifier du tout, ou à peu près. C'est du moins ce qu'indique la totalité de la tradition manuscrite, ou presque, puisque sur les 9 subarchétypes qui attestent ce passage...
C'est quoi un subaquatique ?
Mais non, un subarchétype. Un subarchétype, c'est le manuscrit le plus ancien, dont dérive une famille de copies.
D'accord.
Et donc, sur ces 9 subarchétypes, un seul présente une omission. C'est le manuscrit O, l'Otto Boni 86 de la Bibliothèque Vaticane. Il donne le début de la réplique sous la forme « Arateme eisten talasan », point. Rien d'extraordinaire jusqu'ici. Soit le copiste a fait ce qu'on appelle un saut du même au même, autrement dit, comme il y a 2 fois le pronom « mais » dans la phrase, il aurait oublié les mots qui étaient entre les 2 « mais », soit il a pu tout simplement supprimer le premier des 2 verbes coordonnés par souci de brachylogie.
De quoi ?
De concision, de brièveté dans l'expression, si tu préfères.
Ah bah oui, je préfère. Mais au fait, elle arrive quand, la bourde de Touté ?
J'y viens à l'instant, parce que justement, l'affaire se complique quand on regarde son édition. Au premier abord, tout va bien.
Touté va bene !
Oui, si tu veux. Donc, comme je le disais, au début, tout va bien. Touté édite le texte suivant. Arateme kayem ballete eisten talasan. C'est-à-dire le texte donné, on l'a vu, par 8 des 9 subarchétypes et peu ou prou celui de la Septante. Donc rien à signaler de ce côté-là. Mais figure-toi que dans sa note, il indique à propos du verbe emballeté « id verbum adiacimus », c'est-à-dire « nous avons ajouté ce mot ». Et il continue sa note en disant qu'il l'a fait à partir de 5 autres témoins et du texte biblique. Autrement dit qu'il a suppléé à l'omission du verbe emballeté.
Qu'il a quoi ?
Suppléer à l'omission, c'est-à-dire compléter la partie du texte qu'il considérait comme manquante ou incomplète.
Bon, suppléer, d'accord. Omission, d'accord. Mais omission de quoi ?
Ah, toi aussi ça te paraît bizarre. Effectivement, ce raisonnement paraît très étrange pour un utilisateur moderne d'édition critique. Dire qu'on supplée à l'omission d'un témoin à partir de la collation de 5 autres manuscrits et de la tradition directe de la Septante...
C'est un raisonnement qui marche sur la tête. Sur la tête à touté.
Si tu veux. Mais il y a plus étrange encore. Le texte édité par Touté porte la forme verbale « emballeté » avec 2 lambda au lieu du « emballeté » avec un seul lambda qu'on a vu dans la citation précédente. Or, dans ces formes verbales, la présence d'un seul ou de 2 lambda n'est pas une simple variante orthographique. Dans le premier cas, le verbe est à l'impératif présent, dans le second, à l'impératif aoriste.
Impératif aoriste ? Comment une obligation dangereuse ?
Mais non, aoriste. C'est ce qu'on appelle un aspect. L'indicatif aoriste, par exemple, correspond à peu près à notre passé simple, par opposition à l'imparfait. Mais la différence, c'est qu'en grec, l'aoriste existe aussi aux autres modes. Dans le cas qui nous occupe, l'impératif.
Mais ça change quoi ?
Pour ce qui est de notre texte, peu de choses en fait. La différence de signification n'est pas considérable, et disons que l'alternance entre emballeté, aoriste avec un seul lambda, et emballeté, présent avec 2 lambda, ne constitue pas une variante très significative, ni pour la sonorité du texte, ni pour son sens. On est bien d'accord là-dessus. Et de fait, les exemples d'hésitations de ce genre abondent dans la tradition manuscrite de Cyril et de beaucoup d'autres auteurs.
Bah, où est le problème dans ce cas ?
Eh bien, justement, la bizarrerie de la chose, c'est qu'on s'attendrait à rencontrer dans la tradition de ce passage une alternance du même genre. Autrement dit, on s'attendrait à ce que parmi les 8 subarchétypes qui attestent ce verbe, avec 1 ou 2 lambda, certains donnent « emballeté » au présent, avec 2 lambda, et d'autres emballetés à l'aoriste avec un seul. Or, ça n'est absolument pas le cas. À l'exception donc de O qui omet ce verbe, les huit autres subarchétypes attestent la forme emballetée, soit l'impératif aoriste tel qu'il est donné par le texte de la Septante. Touté a donc suppléé, si on peut dire, un texte qui n'a pas du tout besoin de l'être. Et il l'a fait avec une leçon qui n'est attestée par aucun des manuscrits à notre disposition.
Une leçon comme une leçon d'anglais ?
Non, non. Dans le jargon exotique, une leçon, c'est chacune des différentes formes données à un mot ou groupe de mots en un point du texte par les différents manuscrits. Les variantes, pour faire simple. Donc, comme je te le disais, Touté a suppléé un texte qui n'a pas besoin de l'être, et il l'a fait avec une leçon qui n'est attestée par aucun des manuscrits à notre disposition.
C'est bizarre, en effet.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me prépares une nouvelle question. Vas-y, dis-moi. Tu ne vas pas dire que tu hésites à me poser une question, quand même. Ça serait bien la première fois.
Ah oui, c'est sûr. Non, mais sérieusement, ton bonhomme Touté, là...
Ce n'est pas mon bonhomme, tu sais. C'est un savant qui a travaillé il y a 300 ans, et même si, à mon avis, il a très bien travaillé, ce n'est pas une icône qu'il faudrait vénérer sans discernement.
Bon, alors je me lance. Il fait souvent des bourdes dans ce genre ?
Il est difficile de répondre clairement par oui ou par non à cette question.
Ça m'aurait étonné.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est toujours délicat de juger des choix éditoriaux de nos prédécesseurs, à plus forte raison s'ils ont travaillé il y a longtemps, avec des présupposés et des méthodes qui ne sont plus les nôtres.
Tu peux être plus précis ?
Je vais commencer par un exemple un peu particulier. Le texte biblique lui-même. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, aucun éditeur ne s'est aventuré à modifier le texte des éditions considérées comme de référence à l'époque. En particulier l'édition érasmienne du Nouveau Testament. Donc, quand on voulait suggérer une modification du texte édité antérieurement, on l'a mentionné uniquement en note de bas de page.
C'est moi !
Mais plus généralement, même quand il s'agit d'œuvres, disons, moins sensibles, les éditeurs de cette époque hésitent souvent à apporter des corrections substantielles au texte édité par leurs prédécesseurs. Là encore, ils se contentent souvent de la note de bas de page.
Tu as un exemple ?
Alors, oui ! Il se trouve que j'ai travaillé jadis sur une autre de nos fameuses catéchèses christologiques, à savoir la 12e sur l'incarnation. Donc, dans les chapitres 20 et 21 de cette catéchèse 12, Cyrille cite deux fois le même verset biblique, Michée, chapitre 5, verset 1.
Ah oui, un autre petit prophète, comme Jonas, justement.
Tout à fait.
Mais alors, qu'est-ce qui se passait avec ce petit prophète de Michée ?
Eh bien, comme je te le disais, le même verset, Michée 5, 1, est cité par Cyrille au chapitre 20 et 21 de la catéchèse 12. Et pour ce qui est du texte édité, c'est parfaitement clair. Touté recopie celui de son prédécesseur immédiat, Thomas Mills, qui a édité le texte à Oxford en 1703. Thomas Mills, de son côté, a aussi reproduit le même texte que son prédécesseur, à savoir Jean Prévost.
Jean Prévost. C'est le français qui a édité le premier les catéchèses prébaptismales de Cyrille, c'est ça ?
Mais oui, en 1608, c'est-à-dire plus d'un siècle avant Touté.
Et donc j'imagine il se passe la même chose pour la citation du livre de Jonas. Mills recopie Prévost et Touté recopie Mills qui recopie Prévost.
Et non, justement pas. Là, c'est plus compliqué.
Ah, enfin un peu d'action.
Oui, enfin, ne t'attends pas non plus à un suspense haletant. Ça va se jouer à quelques mots, voire à quelques lettres près. Rien de fracassant, en somme.
Mais si, je m'amuse déjà.
Tant mieux. Cette fois-ci, nous allons donc suivre le sens naturel du courant.
Tu veux dire partir de l'édition la plus ancienne pour aller vers la plus récente ?
Exactement. Revenons donc à l'édition de 1608 de Jean Prévost. Elle donne pour les paroles rapportées de Jonas le texte suivant. Aratemé eisten talasan, kai kopasei et talasa afumon. Ce qui signifie mot à mot, hissez-moi à la mer et la mer cessera de s'agiter contre vous.
Mais il manque quelque chose.
Eh oui. Par rapport à l'édition Touté et à la citation de la Septante, cette leçon présente une différence notable. L'omission du second verbe à l'impératif, emballeté, autrement dit, jetez-moi. C'est ce qui explique que le texte sonne bizarrement. Hissez-moi à la mer, on sent bien qu'il manque quelque chose.
C'est sûr, cette omission est vraiment étrange.
Alors, en fait, oui et non. Quand on connaît la source de Prévost, c'est moins surprenant.
Tu veux dire qu'il a édité un manuscrit qu'il avait sous la main et que le manuscrit... était pas terrible ?
Exactement. D'ailleurs, on connaît la référence du manuscrit en question. Il s'agit de l'Ottoboni 446, qui est un apographe, c'est-à-dire une copie, du manuscrit O, qui est lui-même, si tu as bien suivi...
L'Ottoboni 86 de la Bibliothèque Vaticane.
Tout à fait. Donc bon, l'Ottoboni 446 est un apographe du manuscrit O, un apographe tardif et fautif certes, mais un apographe quand même. Or, on a vu que parmi les subarchétypes, le manuscrit O était le seul à présenter l'omission du verbe emballeter.
Je commence à comprendre. Et Mills, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, sans grande surprise ici encore, il édite rigoureusement le même texte que Prévost, ponctuation comprise. Mais il ajoute une note critique en bas de page, rédigée comme suit. « Kai emballete eisten talasan, ro casobon. »
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il indique les deux variantes issues des deux autres sources qu'il a sous la main. Celle de ce qu'on appelle le « Codex casobon », conservé à la Bodleian Library d'Oxford, mais surtout celle du manuscrit R, le ro 25 de la même bibliothèque.
Ouh là là, que des noms barbares.
De fait, ces noms méritent peut-être une petite explication. Le Codex Casaubon est ce qu'on appelle un manuscrit fantôme. Isaac Casaubon, un grand humaniste protestant du XVIe siècle, avait en sa possession deux sources. La traduction des œuvres de Cyrille par le prêtre polonais Johannes Gordekius et un manuscrit fantôme.
Fantôme ? Pourquoi fantôme ?
Parce qu'il a été perdu peu de temps après. Mais par chance, Casaubon a noté sur son exemplaire de la traduction de Gordekius les variantes qu'il a repérées dans son fameux manuscrit. Par conséquent, les érudits ont pu en reconstituer le texte, qu'on a donc appelé « Codex Casaubon », en l'honneur de celui qui avait fait l'effort d'en relever les leçons. Quant au manuscrit R, c'est un des meilleurs manuscrits de la tradition. C'est un magnifique parchemin en deux colonnes du XIe siècle, rapporté de Constantinople au XVIe par le chevalier Rowe, qui était ambassadeur de la couronne d'Angleterre auprès de l'Empire ottoman.
Mais alors, tu es en train de me dire que Mills avait sous la main un des meilleurs et des plus anciens manuscrits de la tradition et qu'il a quand même édité le texte moisi d'un manuscrit tardif ?
Disons que il n'a pas tant édité le manuscrit tardif en question que recopié à l'identique l'édition de Prévost. En fait, on peut dire que Mills suit, comme souvent à l'époque, la méthode de la voie moyenne telle qu'on l'a définie tout à l'heure. Il hésite à corriger le texte de son prédécesseur, mais il fait tout de même de la critique textuelle, timidement, en signalant en notes les variantes intéressantes qu'il a pu avoir sous les yeux. Donc, il édite en quelque sorte un texte incomplet, mais il donne en note les éléments pour le compléter. À partir de là, la démarche de Toutet se comprend mieux. On a vu qu'il affirme avoir corrigé le texte par addition du verbe « emballeter ».
Mais le texte de qui ?
Celui de Mills, bien sûr. Je fais une petite parenthèse. Quand il a annoncé la sortie prochaine de sa propre édition en 1718, Toutet a explicitement présenté son travail comme une révision et un dépassement de celui de Mills. Il est parti du texte établi par son prédécesseur et il l'a confronté aux trouvailles qu'il a pu glaner dans la tradition manuscrite. Par ailleurs, dans cette tradition, il doit faire un sort particulier à l'Ottoboni 86, complètement inédit avant lui, et resté jusqu'à nos jours le plus ancien témoin connu de nos catéchèses prébaptismales. Donc certes, Toutet édite le texte qu'il juge correct, avec sa séquence « Caïm ballété », en signalant les variantes écartées, celles de son prédécesseur Prévost et Mills, mais aussi celles du manuscrit O, mais surtout, il corrige les trois témoins écartés, et il les corrige, comme on l'a vu, par addition. C'est donc cette démarche d'addition qui explique le verbe « adiecimus » employé par Toutet, et qui semble étrange au premier abord.
Ah, d'accord. Mais alors, est-ce que ça résout notre problème de lambda ?
Très bonne question. Parce que non, ça ne résout pas du tout notre problème de lambda. En fait, les deux questions sont largement indépendantes. Donc le problème reste entier. Et on peut le formuler de la manière suivante. Pourquoi Toutet, qui a eu accès à une tradition manuscrite attestant uniquement l'aoriste emballeté,
avec un seul lambda ?
A-t-il conservé le présent emballeté ?
Avec deux lambdas ?
Tel qu'il est suggéré par Mills dans sa note critique.
En voilà une bonne question. Je suggère une réponse. Parce que Toutet, pour éditer son texte, avait lu une Bible où le verbe était écrit « emballeter » avec les deux lambdas.
Bravo, très bonne suggestion. Et figure-toi que j'y ai pensé. Malheureusement, ça ne marche pas.
Ah mais pourquoi ?
Parce que dans l'idéal, pour vérifier la validité de cette hypothèse, il faudrait savoir quelle édition de la Septante Toutet a pu consulter pendant ses travaux d'édition à Saint-Germain-des-Prés. Malheureusement, les catalogues susceptibles de donner cette information pour la période concernée sont épars, difficiles d'accès est consacré en priorité aux collections de manuscrits. Et de toute façon, il n'est même pas certain que la compilation de ces sources nous livrerait l'identité de la Bible consultée in situ par le savant moriste.
Alors, c'est sans espoir ?
Pas complètement. On a quand même une solution de repli. À défaut de ce laborieux examen, il est quand même possible de faire un sondage parmi les éditions de la Septante susceptibles d'avoir été lues par les gens de cette époque, c'est-à-dire celles qui sont parues en gros entre 1550 et 1700. Donc j'ai consulté 4 éditions parues, pour être précis, entre 1550 et 1653.
Et laisse-moi deviner, dans aucune de ces éditions, on ne trouve le fameux présent de l'indicatif emballété avec les deux lambda.
Exactement. Pour le dire autrement, chacune de ces bibles porte la leçon emballété, donc l'aoriste avec un seul lambda.
Ah bon ? C'est une fausse piste donc ?
Une fois de plus, soyons prudents. Disons que, sous réserve d'un improbable inventaire exhaustif qui nous donnerait accès à une leçon alternative du verset biblique, ce n'est pas la bonne explication. Donc, il faut que nous revenions au rapport entre les textes établis respectivement par Touté et Mills. À propos de Mills, justement, on va formuler la même hypothèse que pour Touté précédemment. A-t-il pu avoir accès à une édition spécifique qui présenterait le présent emballété avec ses deux lambda ?
Il n'a pas lu les mêmes bibles que Touté ?
Pas forcément, puisqu'en l'occurrence, une édition de la Septante est parue à Oxford peu après 1700. Mais là encore, l'hypothèse bute sur deux objections décisives. La première, c'est que le tome qui contient le livre de Jonas est postérieur de plus de 15 ans à l'édition cyrillienne de Mills. La seconde, encore plus importante, est que cette Septante présente elle aussi la leçon emballétée, donc l'aoriste, avec un seul lambda. Par conséquent, même en imaginant, et ce n'est pas du tout invraisemblable, que Mills ait pu être en contact avec cette édition avant qu'elle ait été donnée au public, il n'aurait pas pu y lire le texte de Jonas, chapitre 1, verset 12, tel qu'il le cite en note avec son verbe au présent et ses deux lambda.
Mais alors, pourquoi Mills a écrit ça ?
Je ne vois qu'une explication, et elle est vraiment décevante.
C'est pas une faute d'impression, quand même !
Et si. La seule explication que j'ai trouvée est celle de la coquille d'impression. D'ailleurs, cette erreur s'explique assez bien. Il s'agit d'une faute sur le grec, sans doute moins repérable que sur le latin. Et une faute qui porte sur une seule petite lettre double et qui se trouve dans une note de bas de page. Il n'est donc pas invraisemblable qu'elle ait pu échapper à la correction d'épreuve. On en est là, donc, quand Touté lit l'édition Mills. La note de son prédécesseur anglais attire son attention et à ce stade, comme il a beaucoup de témoins à sa disposition, il pense, à mon avis à juste titre, qu'il peut et même qu'il doit corriger Mills en suppléant l'omission du verbe emballété et en signalant son ajout en note. Donc, Touté a amélioré notablement le texte de cette catéchèse 14 en corrigeant ce qu'il faut bien appeler une omission. Seulement, il a sans doute repris telle quelle la note de Mills avec sa coquille et il a introduit dans son édition une graphie fautive qui modifie malencontreusement le temps du verbe contre la tradition directe mais aussi la tradition indirecte du texte biblique. Pour le dire autrement, il a sans doute corrigé une omission assez importante dans la citation de Jonas, chapitre 1, verset 12, mais il a en même temps introduit une petite faute de lecture.
Ah, je vois. Comme tu dirais, c'est un petit mal pour un grand bien.
Oui, on peut dire ça comme ça.